France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Quel lien la danse moderne et le cinéma entretiennent-ils ? Qu'est-ce qui relie l'un à l'autre ces deux moyens d'expression, nés à la même époque, de l'émergence d'un corps nouveau qui trouvait là à se libérer tout à la fois des contraintes des temps anciens et de celles des temps modernes ? En 1992, c'était autour de ces questions que Anita Castiel engageait la discussion dans le quatrième volet d'une série des Chemins de la connaissance sur le thème de l'être dansant. Invité de cette émission, Bernard Rémy de la Cinémathèque de la Danse et Andréès Labarthe, auteur de plusieurs films sur la danse et les danseurs, notamment sur Caroline Carlson, William Forsythe, John Neumeyer, Patrick Dupont, Sylvie Guillem ou encore sur la compagnie Sankai Juku du chorégraphe japonais Ushio Amagatsu. Les chemins de la connaissance, l'être dansant, la tentation de l'image, quatrième d'une série de 5 épisodes, diffusée la première fois le 26 novembre 1992 sur France Culture.
L'être dansant. La tentation de l'image avec André Labarthe, cinéaste, et Bernard Rémy de la Cinémathèque de la Danse. La danse contemporaine et le cinéma semblent naître ensemble.
On pourrait dire qu'ils naissent, enfin tous les deux ensemble, comme acte de résistance.
Bernard Rémy.
Dans la société, il peut y avoir une esthétique. C'est-à-dire une esthétique qui va, comme une morale esthétique, qui va saisir les corps, les dresser, lier des forces entre elles. Et au 19e siècle, on voit qu'il y a, il y a une prééminence du poids, du rapport au poids. Les hommes, surtout, on le voit dans les peintures de Manet, prennent le deuil de leur corps, deviennent très pesants. Balzac décrit des appartements très très longuement, par exemple. Et les coussins deviennent très lourds, l'air devient lourd. Et c'est parce que dans la société, on l'a pensé à la fin du 19e siècle, que le mouvement ne partait pas des choses, du corps, qu'il fallait qu'il parte de l'extérieur, mais qu'il y ait comme un groupe humain qui possède la source de mouvement. D'où le fait de créer de nouvelles écoles, de nouvelles usines, de faire en sorte que, comme le mode de production industrielle se pratiquait avec des poulies, des leviers, des points d'appui, eh bien, on a prolongé ça dans le domaine de la vie quotidienne. C'est-à-dire, il fallait que le fait de se déplacer aussi se fasse par levier, poulie, point d'appui. Et il y a eu toute une esthétique qu'en est née, une esthétique sociale. Et je crois que... Et donc, l'espace social lui-même était coordonné par des horizontales, des verticales. Il y a une résistance, tout d'un coup, qui est née des poètes. Il faut le dire, des poètes, comme par hasard, c'était des marcheurs aussi. Il fallait retrouver le dehors. Dans une société qui était trop quadrillée, trop vite, qui s'est, d'une manière, par l'industrie et par des tas d'œuvres artistiques. Et le cinéma est né là. Je crois qu'il a produit de nouveaux espaces. D'où le fait de trouver des poètes qui titubent. Regardez le poème de Baudelaire qui parle à un moment donné de l'ivresse. Mais c'est pas uniquement l'ivresse alcoolique, c'est l'ivresse corporelle. On trouve des gaucheries, des diagonales, des choses qui doivent très vite prendre de vitesse. Et le cinéma lui-même aussi va dire, mais non, l'espace qui est devant nous, l'espace qui est à vivre, il ne doit pas y avoir de coordonnées spatiales qui préexistent. D'où le fait de ne pas centraliser tout de suite l'espace. D'où le fait, et Murs Cunningham le dira beaucoup plus tard, il n'y a pas de centre. Et même les coordonnées spatiales, ce sont des foyers, plusieurs foyers de corps et de choses qui doivent les produire.
on s'attache à l'une des premières figures marquantes de la danse contemporaine, qui est l'œil Fuller,
oui.
C'est une personne qui a, de manière indissociable, lié sa danse au cinéma.
Absolument, parce que c'est d'abord la première danseuse qui a été filmée, donc avec des voiles blancs. Donc des voiles, la blancheur au cinéma est très importante, très scintillante. Mallarmé a écrit sur elle. Et ce qu'elle a inventé, c'est-à-dire, elle est juste un petit peu avant le cinéma, mais elle est dans le cinéma dans la mesure où elle participe de ce souci de faire en sorte qu'on va échapper à la lumière théâtrale. La lumière théâtrale, c'est ce qui prétend éclairer les choses de l'extérieur pour souligner une action, illustrer la présentation, etc. Donc ça n'a qu'un rôle de décor, tandis que la lumière au cinéma et en danse va être découverte comme une force substantielle. Elle va naître de l'intimité des corps et des choses. Elle va pas naître du soleil, elle va naître de la nuit, et elle va naître de l'intimité des corps. C'est-à-dire que la lumière sera considérée comme le souffle, comme déjà des lignes de mouvement. La constitution de ces nouveaux corps, en fait, qui sont des foyers d'espace, des espaces condensés, pour les projeter, eh bien, il faut considérer que la lumière est une force projectile, une force de projection. Et c'est l'époque aussi de Delaunay qui nous présente la lumière en peinture comme une force qui est repliée, qui est encore plus intime que notre propre intimité personnelle.
Donc en fait, pour le cinéma, tout comme pour la danse moderne, un nouveau corps émerge, un corps qui n'est plus obligé de s'abolir pour exister.
Quand on regarde tous les textes de la tradition sur le corps, avec Leibniz, il y a comme un basculement où on va partir non pas de l'unité corporelle composée, comme ça, comment nos organes forment un organisme, on va partir des multiplicités. Alors Leibniz part des multiplicités mathématiques, mais il ouvre tout un champ possible après, qui va être repris par le cinéma et la danse contemporaine, qui nous disent on ne doit pas partir de ce qui est composé en nous, mais ce qui est informel en nous, les petites perceptions dont parlait Leibniz. La danse contemporaine va l'accomplir, ça. On a un peuple de perception, nous. Ça ne cesse pas. L'esthétique n'est plus là pour contrôler les corps, mais pour produire de la vie jusqu'à la mort. On a toujours une chance de prolonger un système nerveux, parce qu'il y aura toujours un petit souffle en plus, un cercle de souffle. Des forces inorganiques, ce sont-elles le terreau de nos corps, de nos organes. À venir, bien sûr, toujours à venir. Merce Cunningham. Merce Cunningham, il part d'une intuition merveilleuse. Il nous dit il ne faut pas voir tel ou tel objet, pas focaliser sur lui, mais voir en ouvrant, voir à partir de l'ouverture de l'espace. Donc l'idée de l'ouverture de champ. Ça, il l'invente et ça a des conséquences. C'est-à-dire cette ouverture de champ fait en sorte qu'on supprime la hiérarchie entre le premier plan et l'arrière-plan. Et c'est vrai que Jacques Tati, presque à la même époque, en fait, va découvrir ce cinéma et mettre en pratique des grands halls de gare, des grands halls d'exposition, avec aussi des corps qui se plient, comme ceux de Cunningham, mais d'une autre manière, bien sûr, et puis plus d'espace centralisé. Il peut y avoir des événements qui se passent dans l'événement qui se passe dans un coin ou un bord du cadre est aussi important que celui qui se passe au premier plan.
Aujourd'hui, il semblerait qu'il y ait une tentation de l'image systématique pour le chorégraphe. Peut-être y a-t-il un contresens.
C'est peut-être propre à ce qui se passe en France. C'est comme s'il y avait eu des avancées en France avec des jeunes chorégraphes. Et tout d'un coup, c'est comme s'ils avaient eu peur de la multiplicité. Autant, vous voyez, quelle audace quand même, Isadora Duncan, Marie Wigman, Valès Caguerre au milieu du fascisme, tenter ces gestes anormaux, en nous disant toute cette fièvre et cette vie, ça peut, c'est illimité, c'est l'objet de pratiques, de savoir-faire, de procédures, et qui ne sont pas morales. Il faut y aller, il faut sauter dedans. Et là, on a l'impression qu'ils ont peur de ça, on dirait qu'ils répondent tout de suite par une forme. Il faut tout de suite, par rapport à toutes ces ces puissances informelles où il s'agit de trouver des figures, puis il a d'une figure à l'autre tout au long de sa vie, ils veulent tout de suite donner une forme esthétique. Donc ça devient du théâtre. Ils représentent leur propre force. Et ça, c'est assez nouveau. D'où le fait d'un usage de la vidéo qui aurait plutôt tendance à aller du mauvais côté de la vidéo, qui aurait tendance, elle, à éliminer ce que disait Verti, les danseurs ou les acteurs qui viennent dans l'électronique. C'est l'abolition du temps, de l'espace et du décor. Et sur ce fond monochrome, on a l'impression que tout peut devenir flexible. Donc c'est l'idée que sur ce fond monochrome, on va inscrire des mouvements purs. On n'a plus besoin du corps. Donc c'est une régression.
C'est une représentation.
C'est une représentation. Donc on revient avec des moyens modernes. C'est ça qui est nouveau. Il peut y avoir un certain usage de la technologie qui invente des représentations modernes, mais dans le mauvais sens du terme. Parce que, représentation, c'est ce qui dévitalise, c'est ce qui met en boîte, quadrille, fait des images, tire des mauvaises images, de force qui demande, elle, qu'à trouver des figures, des configurations plus étranges.
André Labarthe filme. Il filme aussi la danse, mais n'aime pas les images.
Je crois que filmer, c'est une façon de voler, de cambrioler la réalité. Donc, lorsque j'étais à l'opéra, j'avais ce sentiment-là. Et c'est les moments où ce sentiment était le plus fort que j'étais le plus content. C'est ça qui est très bizarre. Parce que c'est ça qui introduisait cette distance que je cherche avec la réalité. C'est-à-dire que si la réalité, s'il suffit de poser une caméra devant ce que je veux filmer pour la voir, mais je n'ai plus envie de filmer ça, puisqu'on me le donne. J'ai pas besoin de le filmer, on me le donne. Moi, j'ai envie de ce qu'on ne me donne pas. Et donc, à ce moment-là, la caméra va essayer de regarder à travers des fenêtres, des portes, essayer de montrer les choses comme si les choses résistaient au regard. La danse, c'est comme n'importe quel objet pour une caméra. La caméra, disait Cocteau, ça a un œil de vache. Et c'est-à-dire que ce n'est pas un œil intelligent, c'est un œil bête. Et devant cet œil bête, tous les objets sont équivalents. Que ce soit Sylvie Guilhem ou ce cendrier. Lorsqu'on filme, il faut qu'il se passe quelque chose entre ce qu'on filme et la caméra et soi. Bon, parce que la caméra, elle est inerte. Et pour que les choses se mettent à exister, et c'est là où le documentaire et la fiction se rejoignent, il faut qu'il leur arrive quelque chose. Il y a un exemple que je donne toujours, c'est l'exemple du verre. Pour que un verre existe, je peux le filmer. Je peux filmer un verre, j'aurai rien. Je le filmerai avec un éclairage soigné, j'aurai un verre, j'aurai une image de verre. L'image ne m'intéresse pas. Mais si tout à coup, au moment de filmer, le verre tombe et se casse, à ce moment-là, on aura eu le sentiment, un quart de seconde, que le verre existe.
Mais Cunningham, lui, devant un verre, suite du chant, il ouvre les bras.
Oui, mais justement, la danse, c'est ce qui est formidable, c'est ce qui se rapproche le plus d'un verre qui se casse. Et que c'est un moment, boum, et puis que c'est trop tard. Le sentiment du trop tard. Voilà. C'est ça qui fait la force de ce qu'on filme. C'est tout à coup, les choses n'existent que lorsqu'il leur arrive quelque chose, et ce quelque chose qui leur arrive, c'est leur disparition. C'est-à-dire, c'est lié à la mort. Autrement dit, les choses ne se mettent à exister que lorsqu'elles meurent. Moi, lorsque j'ai filmé certains danseurs, ils ne supportaient pas que la caméra ne soit pas dans l'axe de la salle du spectateur du premier rang. Parce que ils ont l'habitude de répéter devant la glace, et donc ils répètent en réalité pour un spectateur idéal.
Oui, mais c'est aussi des danseurs qui ont beaucoup à voir avec la danse classique, qui viennent de la danse classique, ceux que vous avez filmés. Donc c'est la place du roi, c'est le ballet classique, c'est des tas de choses de ce type-là. Oui. En revanche, en danse contemporaine, c'est pas du tout la même problématique au niveau du film, le fait de filmer leur danse.
Oui, mais parce que la place du roi a été remplacée par la caméra, justement. Oui. Et qu'à ce moment-là, la danse moderne continue à privilégier une place. Et moi, je veux toujours, lorsque je filme, ne jamais être à la place où on l'attend. Si c'est une danse qui est faite pour une caméra baladeuse, etc., donc la danse tourne en même temps que la caméra, etc., de façon à ce que l'image soit celle prévue par la chorégraphie, moi, j'ai envie d'être à côté. J'ai envie d'être à côté, parce que plus je serai à côté, plus le spectacle que je filme sera... Plus je donnerai l'impression que ce spectacle est indépendant de la caméra. Et qui n'a rien à voir. Moi, lorsque je filme quelque chose, je veux montrer que ce que je filme n'a rien à voir avec le cinéma. C'est la leçon de Renoir, par exemple. Renoir, lorsqu'il filme Boudu, en train de gambader dans le bois de Boulogne, il met la caméra à un certain endroit. Parce qu'il faut bien la poser quelque part, la caméra. Mais si la caméra était 10 mètres plus loin, ça n'aurait pas d'importance. Ça n'aurait pas d'importance. Il n'y a pas une place. Il n'y a pas une place idéale pour filmer Michel Simon en train de gambader. Bon, et quelle est la conséquence de ça? Ça veut dire que plus la place de la caméra est arbitraire, plus on aura le sentiment que le personnage filmé est libre. Si Patrick Dupont dit « je suis pas libre, je fais ça comme ça, c'est fait pour ça, c'est fait pour ça », etc., mais tant pis. Moi, je peux très bien avoir envie de le regarder de profil, alors qu'à ce moment-là, il a envie d'être vu de face. Moi, j'ai pas une très grande opinion des danseurs sur ce plan-là, parce que ils ne connaissent rien au cinéma. Rien.
Pourtant, excuse-moi de vous interrompre, pourtant on dit que la danse contemporaine, moi je parle surtout de la danse contemporaine, et le cinéma naissent exactement en même temps, avec les mêmes problèmes, les mêmes interrogations sur l'espace, la lumière.
Oui, mais les gens... Oui, mais... Il y a très peu de gens, c'est surtout les Américains qui ont le sens de ça, de ce qu'est le spectacle et de ce que veut dire une caméra. C'est des gens comme John Cage, des gens comme Cunningham, des gens comme ça qui ont le sens de ce qu'est le cinéma et de ce qu'est filmer la danse. Dès qu'une caméra se met à tourner, il y a ce qui est devant et ce qui est derrière la caméra. Bon, les vidéastes essaient de faire croire que la caméra ne coupe pas le réel en deux. Voilà. Donc, ils essaient de faire croire que le rêve du vidéaste, c'est de faire danser la caméra avec les danseurs. Moi, mon rêve, c'est que les danseurs dansent et que les cinéastes filment. Et ça n'a rien à voir. Un cinéaste, c'est quelqu'un qui met de la distance entre lui et ce qu'il filme.
C'était « La tentation de l'image », le quatrième temps de « L'être dansant », une série proposée par Anita Castiel dans « Les chemins de la connaissance », diffusée la première fois le 26 novembre 1992 sur France Culture.